Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le bon berger. C'est notre 10e émission et je bénis grandement le Seigneur pour cela encore une fois. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous prions, que nous dédions le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, nous venons devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Merci pour l'amour, la grâce, le pardon que tu nous accordes au travers de Jésus-Christ, le bon berger. Père, aujourd'hui nous voulons encore parler sur le bon berger. Nous ne voulons pas être des prédicateurs de plus. Nous ne voulons pas donner un enseignement de plus, mais nous voulons transmettre ta parole, ton enseignement, tes pensées, tes idées sur le bon berger, Père. Parle au travers de nous. Que je disparaisse et que l'on t'entende, toi et toi seul. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Le bon berger. Nous avons défini le berger comme étant celui qui prend soin de ses brebis, celui qui prend soin de son troupeau. Jésus dira dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger » et « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». En d'autres termes, Jésus-Christ prend soin de son troupeau. Le psaume 23, verset 1, cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houette et ton bâton me rassurent. Le berger est un homme ou une femme qui prend soin de son troupeau. Nous avons dit qu'il existe différents types de bergers. Un pasteur d'église est un berger. Un président de la République est un berger. Les rois de ces nations, de nos nations, les rois dans ce monde sont des bergers. Un père de famille est un berger. Mais Jésus-Christ dira qu'il est le bon berger. Un berger est un homme ou une femme qui a une influence sur ses brebis. La question qu'on peut toujours nous poser, qui influence notre vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est la philosophie? Est-ce que c'est la nation? Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que ce sont les cinémas? Est-ce que ce sont les romans? Les auteurs des romans? Qui influence notre vie? Que l'on ne se cache pas. D'une manière ou d'une autre, nous sommes influencés par un berger. David dit, l'Éternel est mon berger. En d'autres termes, je ne me laisse pas influencer par quelqu'un d'autre. Je ne me laisse pas conduire par quelqu'un d'autre si ce n'est que l'Éternel Dieu. Et lorsque Jésus dira dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger », Jésus dit à ses auditeurs que le berger de David, c'était lui. Que le berger de David, c'était lui. Mon frère, ma sœur, pardon. Mon frère, ma sœur, que l'on ne se trompe pas. Un berger a une influence sur quelqu'un. Qui est celui qui influence sur votre vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Ou c'est un autre. David dira, il restaure mon âme, le bon berger. Le berger restaure mon âme. Image de remettre à neuf, de reconstruire, de rebâtir ce qui a été détruit ou déformé. Remettre à neuf quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté du propriétaire. Lorsque nous n'avons pas marché avec Christ depuis un certain nombre d'années, de temps, nous nous laissons influencer par autre chose que Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre éducation est influencée par un autre berger. Et lorsque Jésus-Christ reprend le contrôle de notre vie, il doit restaurer notre manière de voir les choses. Et il n'y a qu'une seule manière de restaurer notre âme, c'est en faisant la méditation de la parole de Dieu, de la Bible. De la Bible. En dehors de la Bible, il est impossible de connaître la volonté de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. La Bible n'a pas été écrite pour les pasteurs seulement. Elle a été écrite pour les brebis de Jésus-Christ, ceux qui veulent connaître Jésus-Christ. Jean 10, verset 14 dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. On ne peut pas tromper Jésus-Christ. C'est vrai qu'on peut aller à l'église, on peut être baptisé, membre d'une église dite chrétienne, prêcher même l'évangile comme je suis en train de faire et ne pas faire partie du troupeau de Jésus-Christ. Et Jésus ajoute, elles me connaissent. C'est-à-dire que les brebis du Seigneur prennent le temps de connaître Jésus-Christ dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière. Elles méditent la parole de Dieu le jour comme la nuit. Le jour, c'est quand tout va bien, la nuit, c'est quand tout va mal. David ajoutera, quand je marche, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je passe par des moments difficiles, quand les moments difficiles viennent frapper à ma porte, quand je suis malade, lorsque je suis au chômage, lorsque mon couple est sur le bord, quand mon couple est au bord du divorce, quand mes affaires ne vont pas bien, lorsque mon ministère n'avance pas, toutes les portes sont fermées. David dit, je ne crains aucun mal, car le bon berger est avec moi, car l'Éternel Dieu est avec moi, car Jésus-Christ est celui qui guide, qui me conduit dans ma vie de tous les jours. Psaume 31, verset 4. Le psaume 31, verset 4. Tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. David dit, ce n'est pas mon armée qui m'assure ma protection. Ce n'est pas mes gardes du corps. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas mes études. Ce n'est pas ce n'est pas les médecins. C'est Dieu qui est mon rocher. C'est Dieu qui est ma forteresse. C'est Jésus-Christ qui est mon rocher. C'est Jésus-Christ qui est ma forteresse. Un rocher, une forteresse, c'est une image de quelque chose qui nous protège. Un rocher, l'eau peut venir frapper, la pluie peut venir frapper, les intempéries peuvent venir. Le rocher ne va pas s'effondrer. C'est quelque chose de sûr, quelque chose de solide. Une forteresse, ce sont des hautes, si je puis dire, des hautes murailles qui nous protègent contre des ennemis extérieurs. Et c'est ça que David est en train de dire. Quand je passe par des moments difficiles, je suis sous la protection de Dieu. Je suis sous la protection de Jésus-Christ. Je suis sous la protection du bon berger, mon frère, ma sœur. Les difficultés que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours ne doivent pas être une occasion de fuir Jésus-Christ. Ne doit pas être une occasion d'abandonner Jésus-Christ. Certains abandonnent Jésus-Christ quand tout va bien. Quand tout va mal, ils étaient appuyés, ils étaient ancrés en Jésus-Christ. Mais quand Dieu a commencé à les bénir, si je puis dire entre guillemets, quand leur bénédiction a commencé à se matérialiser, quand ils ont commencé à avoir du travail, des voitures, des voyages, des maisons, ils ont commencé à se retirer de Dieu. D'autres, quand tout va bien, Dieu est leur Seigneur, Dieu est leur Sauveur, Jésus-Christ est leur berger. Mais quand tout va mal, ils commencent à se remettre en question. Ils commencent à poser des questions. Est-ce que Dieu réellement existe? Est-ce que réellement Jésus-Christ me connaît? Est-ce que réellement Jésus-Christ entend ma prière? Est-ce que Dieu exauce réellement ma prière faite en Jésus-Christ? Ils se posent tout plein de questions et ils commencent à abandonner la foi. Ils commencent à se retirer petit à petit. Ils commencent à écouter un autre berger. Ils commencent à écouter le son d'une autre bergerie autre que celle que Jésus-Christ. Les difficultés, mon frère, ma sœur, elles viendront toujours. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons abandonner Christ. Ce n'est pas pour ça que nous devons dire que Dieu n'existe pas. Lisez la Bible de Genèse à Apocalypse. Ces hommes et ces femmes qui ont marché avec Dieu, avec le Dieu de la Bible, sont passés par des moments difficiles, sont passés par des obstacles, sont passés par des tempêtes, sont passés par des intempéries, sont passés par le désert. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que après la vallée de l'ombre de la mort, votre confiance en Jésus-Christ devient plus forte. Pourquoi? Parce que vous avez la preuve qu'il est fidèle et qu'il ne se renie pas lui-même et qu'il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Ceci me fait penser à ma propre vie, il y a quelque temps en arrière. Il m'arrivait des fois de sortir tard la nuit, vers 11h du soir, minuit. Je marchais, je me posais des questions. Je disais, Seigneur, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de difficultés? Et heureusement pour moi que j'avais reçu quelque temps avant un conseil d'un pasteur, au cours d'une prédication que j'écoutais. Il recommandait, il suppliait, il demandait à tout enfant de Dieu de toujours lire la Bible d'un bout à l'autre. Et quand je lisais, je voyais que des gens passaient par des moments plus difficiles que moi. David était pourchassé par son mentor, Saül. Trois fois, il a tenté lui-même de le tuer avec un javelot. Il a fait des expéditions contre David. Abandonné, rejeté par son mentor. Mais les promesses de Dieu se sont accomplies. Abraham, 25 ans de traversée de l'ombre de la mort pour avoir un enfant. L'ombre de la mort peut représenter une situation particulière. Ce n'est pas forcément que tout ne marche pas dans votre vie. Non, l'ombre de la mort, ça peut être la stérilité. Vous lisez dans la Bible, Dieu vous montre que non, il n'y aura ni stérile, ni celle qui avorte dans ma maison. Mais vous, le médecin, vous déclare stérile, incapable de concevoir les enfants. Ce n'est pas pour cela que vous allez abandonner Dieu. Dieu a plus d'importance que des enfants. Et c'est Dieu qui donne des enfants. Dieu donnera toujours des enfants à ceux et celles qui s'attachent à lui. Dieu donnera toujours du travail à ceux et celles qui s'appuient sur lui. Dieu donnera toujours une voiture ou je ne sais pas quelles sont les difficultés. La guérison à ceux et celles qui s'attachent à lui. Les difficultés ne sont pas une raison pour abandonner Jésus-Christ. Les difficultés, les tempêtes, la traversée de la vallée de l'ombre de la mort ne sont pas une occasion pour dire à Jésus non. Nous ne nous étions pas convenus de cette manière. Ceci me fait penser à une histoire que j'ai entendue d'une dame au cours d'une prédication. Elle est venue voir un pasteur et elle a dit « Je mets un ultimatum, je donne un ultimatum à Dieu, à Jésus-Christ. Si à la fin de cette semaine, je n'ai pas de fiancé, j'abandonne la foi chrétienne. » Le pasteur lui dit « Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Non, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui se convertissent vendredi. Dimanche, elle passe par les eaux du baptême. Mercredi, elle trouve un fiancé. Deux mois après, elle se marie. Mais moi, ça fait plus de 5 ans que je sers Jésus-Christ. Aucun homme ne s'approche de moi pour me demander en mariage. » Et elle dit, « Si à la fin de cette semaine, je n'ai personne qui me demande en mariage, j'abandonne Jésus-Christ. » Vous savez, je ne sais pas quelle était la suite de cette dame. Mais si c'est seulement pour le mariage qu'elle s'est engagée dans la foi chrétienne, elle n'a rien compris. Le ciel a beaucoup plus, le ciel qui nous attend a beaucoup plus d'importance que le mariage, que le commerce, que l'argent, que la nourriture, que le vêtement. Ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ a une très grande importance. Le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ vaut toutes les bénédictions que Dieu donne lui-même. Mais Dieu donne le mariage, Dieu donne les enfants. Je comprends cette dame dans un sens, je ne la condamne pas. Je la comprends dans un sens. Mais dans un autre sens, je lui dirais, ne jette pas le salut que Dieu t'a donné en Jésus-Christ parce qu'aucun homme n'est venu vers toi. Quand je me suis converti, une ou deux semaines après, et que je me suis engagé dans un département d'évangélisation, j'ai entendu une drôle de réflexion. Un frère disait, que Dieu bénisse ce frère qui est pasteur aujourd'hui, il disait à une dame, ne va pas trop loin. Parce qu'elle faisait partie du département d'évangélisation, elle disait, ne va pas trop loin, parce que Jésus revient bientôt. C'était une manière de lui dire, nous sommes en train de partir. Elle répondra et dira, non, que Jésus ne vienne pas maintenant. J'ai des choses à faire. Et on lui a posé la question, quoi? Il faut d'abord que je me marie. Ce n'est pas une si mauvaise chose de se marier. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le retour de Jésus-Christ a une plus grande importance que le mariage. Nous ne pouvons pas dire à Jésus-Christ, ne viens pas parce que je ne suis pas encore marié. Ne viens pas parce que je n'ai pas encore d'enfant. Ne viens pas parce que je n'ai pas encore bâti une entreprise. Non. Jésus-Christ, dans son ordre missionnaire, ne nous demandera pas d'abord d'aller nous marier avant d'aller prêcher l'évangile. Non. J'aurais compris si cette femme avait dit, non, retenons encore le retour de Jésus-Christ parce qu'il y a encore des âmes qui doivent être sauvées, des gens qui doivent encore entendre l'évangile. J'aurais compris. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, mon frère, ma sœur, ne renions pas Christ à cause des problèmes. Ne renions pas Christ à cause des difficultés. On est incapable de payer son loyer, on est incapable de payer ses factures. Alors on se dit, Dieu m'a abandonné. Et maintenant, on tourne le regard vers un autre berger, vers les bergers de ce monde, vers le mensonge, le vol, la prostitution, le meurtre, la cupidité, l'ivrognerie, la drogue, la musique mondaine, si je puis dire. Non, ne faisons pas cela. N'abandonnons pas Jésus-Christ à cause des difficultés. Psaume 32, verset 7. Psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. En d'autres termes, tu es une maison sûre, une maison de protection. Tu me garantis de la détresse. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta présence est la garantie que je serai victorieux des difficultés que je rencontre. La présence de Jésus-Christ dans notre vie est une garantie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, nous dit la Bible. Je peux tout accomplir par celui qui me fortifie, nous dit la Bible. Nous pouvons réussir cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort à condition que Jésus-Christ soit avec nous. Écoutez, que l'on soit avec Jésus-Christ ou que l'on ne soit pas avec Jésus-Christ, tous nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tous nous aurons des difficultés. Mais ceux et celles qui ont choisi Jésus-Christ comme berger vont réussir dans cette traversée. Vont réussir dans cette difficulté. Vont réussir. Et n'oubliez pas que ce n'est qu'une traversée. Ceux et celles qui ont choisi d'autres bergers que Jésus-Christ risqueraient de demeurer dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais si ces personnes entendent la voix de Jésus-Christ, cette vallée de l'ombre de la mort va se transformer qu'en un lieu de traversée et non pas une demeure. C'est la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer, vous qui m'écoutez en ce moment. Le divin berger, le bon berger qui est Jésus-Christ, connaît cette route. Il est la garantie d'être délivré de la détresse. Il est notre garantie. Psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu me garantis que je ne vais pas mourir parce que l'ennemi est en train de m'attaquer. Je ne vais pas perdre parce que l'ennemi a prononcé des paroles de malédiction sur moi. Mon grand-père, mon père, mon arrière-grand-père, mes oncles, mes frères et sœurs ont prononcé des paroles de malédiction pour moi. Donc je vais échouer. Non ! Si Jésus-Christ est notre berger, la Bible dit qu'il est devenu malédiction pour nous, afin que nous devenions bénédiction. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Joseph, dans Genèse 45, dans Genèse 45, verset 5, de 5 à 8, Joseph ayant un premier discours avec ses frères, dira, maintenant, quand ses frères l'ont reconnu, maintenant ne soyez pas affligés, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. En d'autres termes, c'est Dieu qui m'a conduit dans cette vallée, qui m'a fait traverser cette vallée de l'ombre de la mort, la maison de Potiphar, la prison de Pharaon, c'est Dieu. Ça, il le dit dans Genèse 45. Mais lorsqu'il est en train de traverser cela, il ne le dit pas, mais il le comprend plus tard. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. 45, verset 6. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. J'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. C'est Dieu qui m'a fait traverser ça. Vous n'avez été que des instruments pour cette traversée, pour mettre ce plan en marche. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire « Que peut me faire un homme? L'homme n'est que l'instrument que Dieu utilise pour accomplir ses desseins dans ma vie. Vous me prenez aujourd'hui, vous me vendez. Vous me prenez aujourd'hui, vous tentez de me tuer. Vous me faites fuir dans le désert, comme dans le cas de David. Vous n'êtes que des instruments de Dieu. Vous ne pouvez rien faire d'autre que ce que Dieu a prévu pour moi. Et c'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Abandonné des hommes. Les hommes l'ont vendu. Ils étaient des instruments de Dieu. Ces hommes l'ont flagellé. Ce n'étaient que des instruments de Dieu. Ces hommes l'ont tué. Ce n'étaient que des instruments de Dieu pour le salut de l'humanité. Mon frère, ma sœur, quoi que puissent vous faire les hommes, vous êtes en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit le livre Romains. Lisons-le, Romains 8. Romains 8. Romains 8. Non, c'est Romains... Bon, je ne retrouve pas le passage, mais ce n'est pas grave. La Bible dit dans le livre de Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous aimez Dieu, les hommes sont en train de vous faire du mal, ce n'est pas grave. Ce sont des instruments que Dieu utilise pour accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Nous l'avons lu. Mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Genèse 50. Genèse 50, versets 19 à 21. Toujours Joseph qui parle. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous enterrai, vous et vos enfants. » Et il leur consola et parla à leur cœur. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Cela peut arriver, comme je l'ai dit. Parce que les hommes ont médité quelque chose de mal contre nous. Qu'est-ce que l'homme peut faire? L'homme peut détruire. Le mariage. L'homme peut détruire le corps. L'homme peut détruire votre entreprise. L'homme peut détruire votre église. L'homme peut détruire tout ce que vos mains ont fait. Mais ce n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Si Jésus-Christ est votre berger, votre sauveur et votre Seigneur personnel, l'homme ne pourra rien faire d'autre que Dieu ne puisse rebâtir, rétablir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous aimez Dieu. Le bien et le mal qui vous arrivent est bénéfique pour vous tant que vous comprenez que Jésus-Christ, tant que vous acceptez, premièrement que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur personnel, et que la vallée de l'ombre de la mort n'est qu'une traversée. Et lorsque vous sortez de là, vous sortez plus fort, vous sortez plus grand, vous sortez plus robuste en termes de foi. Parce que vous connaissez Dieu, vous l'avez vu en l'œuvre et il est en train de vous bâtir, si je puis dire. L'homme et la femme, l'homme ou la femme qui a confiance en Jésus-Christ, qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, sera toujours plus victorieux. Les prochaines difficultés, il pourra dire, si une armée campe autour de moi, ils ne peuvent rien me faire, parce que Dieu est mon protecteur. Parce que Jésus-Christ est mon berger. C'est lui qui m'a conduit ici. Il ne me conduit pas ici pour que je meure, mais il me conduit ici pour me donner une plus grande victoire en sa personne. C'est vraiment merveilleux, mon frère. C'est vraiment merveilleux, ma sœur. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, ou si vous avez abandonné Jésus-Christ à cause des difficultés, Jésus-Christ vous dit aujourd'hui, revenez à lui. Revenez à lui. Revenez à lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il parle à ses brebis et ses brebis entendent sa voix. Jésus-Christ vous parle aujourd'hui. Ne voyez pas la personne que je suis, mais voyez Jésus-Christ qui vous parle au travers d'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Il vous dit, aujourd'hui est encore le jour du salut. Revenez dans la bonne bergerie. Si c'est cela votre prière, votre désir, c'est très simple. Baissons la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi. J'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message. J'ouvre les portes de mon cœur à Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie à ne suivre qu'un seul berger qui est Jésus-Christ. Je dis non à toute autre forme de berger. Je dis non au diable. Je dis non à ses influences. Et je dis oui au Saint-Esprit. Je dis oui à Jésus-Christ. Je crois et je confesse que maintenant, Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je prends l'engagement de le suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Que vous faites partie maintenant des enfants de Dieu. Que vous faites partie de la bergerie de Jésus-Christ. Pas d'une religion, mais de Jésus-Christ. Pour toute question spirituelle, vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au numéro suivant, plus 243 819 910 910. Je répète, plus 243 819 910 910. Ou vous pouvez visiter notre site internet www.jesuspourtous.org. Je répète, www.jesuspourtous.org. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, le bon berger. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.